Voilà, donc bonsoir à vous tous. Nous accueillons ce soir Alain Ouzio pour l'avant-dernière séance ou conférence de notre cycle annuel sur sciences et religions. Donc je vous rappelle que la dernière séance aura lieu le 15 mai où nous recevrons Philippe Portier. Philippe Portier qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Qui a une chaire de sociologie et histoire des laïcités européennes, et qui est plus particulièrement un spécialiste de la pensée catholique, et qui nous fera quelque chose sur la réception dans le monde catholique de la théorie de l'évolution. Et je pense que ça sera intéressant, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur cette question-là. Mais ce soir, nous recevons Alain Ouzio, que vous connaissez tous déjà sans doute, pasteur, chercheur tous azimuts, et qui va nous proposer un intitulé que je lui laisse le soin de commenter. Donc, science et religion. Alors, il sera question plutôt de psychanalyse. Alors, je crois qu'on ne se perdra pas dans des débats sans fin sur la question de savoir si la psychanalyse est une science. En tous les cas, c'est une approche, une compréhension possible du psychisme humain. Et aussi peut-être, pourquoi pas, vous savez que Freud, dans une lettre, avoue que s'il a eu le courage de mener les recherches qui ont été les siennes, s'il a eu le courage de s'aventurer dans des zones un peu obscures, s'il a eu le courage d'être minoritaire et en son temps rejeté, c'est parce qu'il était juif. C'est assez extraordinaire, cette idée, qu'il y a un petit peuple comme ça, qui a une vocation minoritaire, mais vocation à porter quelque chose qui a une signification universelle. Et donc, je pense que les relations entre la psychanalyse, d'une part, et d'autre part, ce dont il est question dans la Bible, sont des relations intimes et très étroites. Alors, je ne veux pas évidemment préjuger de ce que Alain Ouzio va nous dire. Mais c'est quand même sous les auspices des relations entre Bible d'une part et psychanalyse d'autre part que Alain Ouzio va nous éclairer sur nos errements depuis Adam et Ève. Voilà. Tu as la parole.
Merci, 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 merci. Je suis très honoré d'être accueilli au sein du temple de l'oratoire. Bien, et merci beaucoup d'avoir pris cette initiative courageuse. Et voilà. Alors donc effectivement, je voudrais m'entretenir avec vous d'une approche psychanalytique du mythe d'Adam et Ève. Je termine effectivement un livre sur cette question et j'y travaille depuis un certain temps. La première chose, c'est d'essayer de parler des mythes en général. D'une approche psychanalytique des mythes. Alors, ce qui est frappant pour les mythes, c'est qu'ils ont une très grande congruence. C'est-à-dire qu'il y a des mythes tout à fait parallèles dans des continents qui n'ont pas eu a priori de relation entre eux. Par exemple, les Aztèques d'Amérique et le peuple hébreu du Moyen-Orient. Ça pose une question. On retrouve à peu près toujours les mêmes thèmes. Tout à l'heure, à propos du mythe d'Adam et Ève, j'énumérerai un certain nombre de ces thèmes. Assez souvent avec un symbolisme tout à fait comparable. En particulier, pour ce qui nous occupe, le thème du jardin est un thème absolument universel, d'un jardin paradisiaque. Le thème d'un arbre au milieu de ce jardin, appelé arbre de vie, et qui symbolise plus ou moins Dieu, est également un thème extrêmement général. Dans certains mythes, l'arbre a les racines dans le ciel. Ce qui montre bien qu'en fait, d'une certaine manière, c'est un lien. Donc, ça peut être, si la racine dans la terre, c'est un moyen pour les hommes de monter vers le ciel. Et s'il a les racines dans le ciel, eh bien, ça peut être plus rare, mais enfin qui existe quand même, une manière pour les dieux de féconder, puisque l'arbre a une signification phallique, de féconder la terre. Bon, de même, le thème du serpent est absolument fréquent aussi. Le serpent n'a en général pas le même rôle que celui qu'il a dans le récit d'Adam et Ève, puisque en général, le serpent est le protecteur de l'arbre. Le protecteur de l'arbre. Il peut être aussi une forme de dragon. Bon. Mais là, là, vous voyez, en fait, peut-être qu'il est d'une certaine manière un protecteur de l'arbre. Nous verrons, en incitant Adam et Ève à en profiter. Pourquoi pas? Bien. Donc, le thème du jardin est extrêmement fréquent, le thème de l'arbre aussi, le thème du serpent également. Le thème du premier couple humain est extrêmement fréquent aussi, un peu partout. Et le désir de ces premiers êtres humains de devenir comme des dieux est un thème également constant. Alors, on a pu se demander pourquoi, parce que, bon, quelquefois, on pourrait supposer que les mythes, mettons, du monde babylonien aient pu influencer les mythes bibliques, ce qui est presque vraisemblablement, même selon certains. Enfin, pourquoi des connivences entre les mythes de peuplades africaines, enfin, avec les Aztèques, avec... Bon, ouais. Donc, en fait, on constate que les mythes... Alors, le mot « archaïque » a trois significations extrêmement importantes. Les mythes relèvent de l'archaïque. Ils relèvent de l'archaïque en ce sens qu'ils rendent compte de la religion archaïque, la religion archaïque étant supposée être la religion des premiers êtres humains. Et vous savez que ce qui est fondamental pour les premiers êtres humains, ce n'est pas du tout Dieu, qui est une notion extrêmement tardive, mais ce sont les notions de tabou et de sacré. On peut dire très simplement, et j'espère que le Dieu en question n'en prendra pas ombrage, ni les paroissiens de l'oratoire, que, en fait, Dieu est un produit dérivé, tardif, de la notion de tabou, plus encore que de celle de sacré. Donc, effectivement, les mythes ont quelque chose d'archaïque par le fait qu'ils reflètent une pensée extrêmement ancienne, et le mythe d'Adam et Ève, quand bien même il a été rédigé en sa forme définitive, celle que nous lui connaissons dans nos Bibles, au VIe siècle avant notre ère, a certainement des strates extrêmement anciennes qui se sont superposées et qui relèvent de la religion archaïque. La religion archaïque, c'est-à-dire à base d'animisme, de tabou. Bon. Deuxième point, archaïque se réfère à nos origines, et on peut dire que dans les mythes se retrouvent tous les fantasmes des enfants, des petits-enfants, qui sont supposés être les fantasmes les plus primitifs en nous, c'est avant qu'ils n'aient été éduqués par la censure, par la morale et par le père. Donc effectivement, il est tout à fait intéressant d'étudier le mythe d'Adam et Ève de ce point de vue-là, et c'est pour cela que, si mon éditeur le permet, j'appellerai peut-être mon bouquin « Le complexe d'Œdipe d'Adam et Ève ». Le complexe d'Œdipe d'Adam et Ève, en ce sens qu'on peut lire dans ce mythe tout ce qui est à la racine du complexe d'Œdipe qui, comme chacun sait, anime ou est censé animer les enfants jeunes, les jeunes enfants. Troisième sens du mot archaïque, archaïque se réfère à ce qu'il y a dans notre psyché de plus primitif, à savoir le « ça » et surtout l'inconscient. Il y a en nous de l'inconscient, et je crois que la plus belle définition qu'on peut donner du mythe, qui n'est d'ailleurs pas de moi, mais d'un monsieur Valagreba, qui est passé à l'éternité il y a peu de temps, c'est d'appeler les mythes les conteurs de l'inconscient. Les conteurs de l'inconscient, c'est-à-dire, en fait, c'est ce qui est en nous de l'ordre de l'inconscient qui ressort non seulement on l'a dit, sous forme de rêve, bon ça c'est bien connu, mais peut-être encore plus sous forme de mythes, les mythes qui expriment une part inconsciente de nous-mêmes, une part de délire de nous-mêmes. Il y a incontestablement dans les mythes et quelque chose qui est de l'ordre du délire, je pense que vous le verrez dans ma manière de commenter le mythe d'Adam et Ève, des délires paranoïaques, délires de persécution, délires paranoïaques aussi puisque c'est délire de grandeur en particulier. Enfin, c'est le quatrième point, j'en avais assez de trois, mais enfin il y en a quatre, archaïque se réfère à une interrogation par rapport à nos origines. Il y a toujours une question, pas simplement chez les enfants, mais chez tout le monde, sur la question des origines, c'est-à-dire l'origine de l'humanité, qu'est-ce qui est, à quel moment l'humanité a-t-elle commencé, à quel moment elle était-elle différente des animaux, et puis aussi l'origine du sens moral, c'est une question, la connaissance du bien et du mal, c'est une question fondamentale, comment s'est formé le sens moral, comment a émergé le sens moral, comment a émergé éventuellement la sexualité aussi, et aussi comment a émergé le sens de Dieu. Comment a émergé le sens de Dieu. Toutes ces questions donc sur les origines sont des questions finalement qui troublent beaucoup les petits-enfants et les personnes plus âgées quand elles continuent à avoir la même intelligence que les petits-enfants. Bien, alors donc, on retrouve un peu tout ça dans le mythe d'Adam et Ève. On peut détecter dans... Et bien aussi, ce qui est aussi, j'allais oublier de le dire, ce qui est fondamental dans les mythes, c'est qu'ils sont révélateurs de ce qu'on peut appeler des conflits entre les interdits et le désir, ou entre les tabous et le désir. Et là, bon, c'est particulièrement net dans ce mythe d'Adam et Ève, puisque Adam et Ève sont saisis d'un désir, qui est le désir de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais donc il y a là du tabou, hein, il y a là du tabou, quelque chose qui interdit le désir, un peu comme de la même manière qu'il y a des mythes qui rendent compte d'une certaine manière aussi de l'interdit de l'inceste et également de l'interdit du parricide qui existe, et de l'interdit de s'en prendre à Dieu tout autant. Bon, il y a donc, il y a dans notre mythe d'Adam et Ève, ce qu'on peut appeler une concrétion d'un certain nombre de thèmes différents. Ça forme apparemment un récit continu, mais en fait, il y a des strates sémantiques différentes, ce qui d'ailleurs, quelquefois, suscite quelques petites contradictions dans le récit, mais en fait, le récit a néanmoins quelque chose de continu. Première strate, la strate de la mémoire, du paradis perdu. Ça, c'est un des mythes les plus universels. Il a été largement étudié, en particulier par Mircea Eliade. Donc, effectivement, c'est assez curieux de voir comme autant maintenant la question qui semble animer la plupart d'entre nous, c'est la question de savoir ce qu'il y a après la mort, et on imagine le paradis comme étant un lieu après la mort. Autant pour les anciens, eh bien, en fait, nous étions avant dans un paradis, et nous avons chu de ce paradis. Nous avons chu de ce paradis, mais il y a donc le souvenir d'une époque, de l'âge d'or, et cette époque était une époque où les hommes vivaient en pleine communion avec les dieux, et où les hommes bénéficiaient, je dirais, d'une sorte de jouissance, une jouissance de vie, qui, en fait, voilà. Et puis, en fait, ensuite, il y a un événement s'est passé, et cet âge d'or du paradis perdu a été effectivement perdu, et les hommes et les femmes ont été jetés en dehors du paradis perdu. Ce n'est pas la peine de vouloir faire une psychanalyse, faire de la psychanalyse trop recherchée, pour mettre tout ceci en parallèle avec le souvenir que nous aurions tous au fond de nous-mêmes du paradis perdu, de l'époque où nous étions blottis contre le sein de notre mère, ou même, pour un certain nombre de psychanalystes, comme Otto Rank et d'autres, Brunel Berger, le souvenir qui serait, paraît-il, obsédant de l'époque où nous étions dans le giron de notre mère. Donc, vous voyez, l'arbre d'Éden, le jardin d'Éden représenterait, en fait, de manière fantasmatique, le giron de l'humanité avant qu'elle ne naisse. C'est-à-dire qu'avant que l'humanité ne paraisse sur cette terre, eh bien, bien sûr, pour nous, c'est un petit peu plus gênant parce que nous savons tous maintenant que nous descendons tout autant du singe que le singe descend du cocotier, mais pour l'époque ancienne, eh bien, en fait, si vous voulez, les hommes descendaient des dieux. Ils descendaient aussi des animaux, d'où l'importance des totems qui représentaient les animaux, qui étaient ainsi un identificateur de chaque clan. Mais les hommes descendaient des dieux, et d'une époque où ils vivaient comme les dieux, avant qu'ils ne soient jetés sur cette terre. Donc, effectivement, vous avez là des thèmes qui sont congruents. D'une part, le thème donc d'une sorte de mémoire de la vie de jouissance que nous aurions eue dans le sein maternel. Il paraît que anatomiquement, ça se passe pas si bien que ça, et que les petits dans le ventre de leur mère ne sont pas si heureux que ça. Mais enfin, peu importe, il semblerait en tout cas que d'après les fantasmes que nous avons, effectivement, nous référons à cette époque, donc du sein maternel, ou tout au moins, en tout cas pour Freud, de l'époque où nous avions une relation fusionnelle et non duelle avec notre mère, quand nous étions blottis contre notre mère, repus après la tétée, en symbiose avec la mère. Bon. Donc, le thème donc du sein maternel, le thème du jardin perdu, et aussi le thème également de cette état antérieur à celui de l'humanité, qui serait celui d'avoir été comme des Elohim, comme des dieux. Et nous aspirerions, toute notre vie durant, à retrouver retrouver cette jouissance anténatale, de cette jouissance de notre vie in utero, de cette jouissance de l'époque où nous étions comme des dieux, ou bien où nous étions aux anges, ou bien où nous étions au septième ciel. Vous voyez tout ça, donc ceux d'entre vous qui connaissent déjà le mythe d'Adam et Ève, je pense que c'est quand même une chose relativement fréquente chez les paroissiens d'oratoire, donc ceux qui connaissent le mythe d'Adam et Ève savent qu'effectivement le désir fondamental d'Adam et Ève est de devenir comme des dieux, c'est-à-dire de retrouver cette jouissance d'un état anténatal, où on est comme des dieux, et on est aux anges. Donc, il y a le thème donc du souvenir du paradis perdu, mais il y a aussi le thème, du désir de retrouver. C'est pas la même chose, du désir de retrouver. Et là, vous voyez donc une sorte de concrétion de deux thèmes différents dans le récit d'Adam et Ève, puisque donc Adam et Ève vivent comme des dieux dans un premier temps en se nourrissant du fruit de l'arbre de vie, qui est une sorte de cordon ombilical, qui les relie directement à la divinité. Ils vivent dans une sorte de symbiose avec le sein d'un dieu maternel. Il faut savoir que Dieu, à l'origine, est autant maternel que paternel, et que même le Dieu d'Israël, enfin le Dieu du monothéisme juif, est l'héritier de divinités aussi bien masculines que féminines. Bon, donc effectivement, là, il y a le giron du Dieu, le giron de Dieu, et on peut dire qu'effectivement, l'arbre de vie représente le cordon ombilical qui permet de vivre en symbiose avec Dieu. Mais dans un autre thème, effectivement, a plutôt axé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on peut dire que Adam et Ève désirent en quelque sorte conquérir par eux-mêmes le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et conquérir par là même cette jouissance de la vie dans le giron de Dieu. Ils veulent être comme des dieux. Donc, thème de l'insagie du paradis perdu, thème du désir de conquérir la jouissance. Aussi, le mythe d'Adam et Ève est une première image de Dieu. Bon, tout à fait à l'origine, il est très probable que le mythe d'Adam et Ève ignorait Dieu. Il connaissait simplement que les tabous. Mais là, on nous donne une première image de Dieu, et on voit que la toute première image de Dieu, eh bien, c'est un Dieu qui décrète tabous. On voit qu'on est très très près de la mentalité archaïque, puisque finalement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est un arbre tabou, et la fonction de Dieu, eh bien, est de décréter ce tabou et de punir ceux qui transgressent ce tabou. Donc on est tout à fait dans la mentalité archaïque. C'est là la toute première image de Dieu. C'est assez intéressant de voir que cette première image de Dieu dans la Bible, qui est directement héritée de celle des religions archaïques. Mais ça aurait pu tout aussi bien fonctionner s'il n'y avait pas eu de Dieu, parce que dans la mentalité archaïque, et la mentalité archaïque continue à être présente à Madagascar, en Afrique noire et un peu partout, si vous voulez, le fait même de s'emparer de quelque chose qui est tabou implique en soi-même donc une mise à mort, produit sans qu'il y ait besoin d'intervention de Dieu. Mon beau-frère, un de mes proches qui est musulman, une fois il a mangé par inadvertance du porc. On lui a dit trois heures après que le repas, que s'était trompé, qu'on lui avait donné du porc. Il a été malade, si j'ose dire, comme un chien. Et il semblerait que, en fait, certains meurent de le fait d'avoir. Donc le tabou, en quelque sorte, se venge de lui-même et sans qu'il y ait besoin d'un dieu par-dessus le marché qui soit là pour édicter le tabou et pour punir la transgression du tabou. Donc une première image de Dieu qui est donc très claire, qui est le dieu du tabou, et le mythe a aussi, comme dans beaucoup d'autres mythes, une fonction ce qu'on appelle étiologique savamment, c'est-à-dire une manière d'expliquer la situation actuelle et la situation insectuelle. Eh bien, que voulez-vous, c'est que les hommes et même les femmes souffrent, et que les hommes et même les femmes meurent. Et donc, effectivement, mettre au monde des enfants produit de la souffrance, et que quand on travaille fort son jardin, on le fait à la sueur de son front. Donc, effectivement, si vous voulez, cette question de la souffrance est une question fondamentale, et donc tout un tas de mythes ont existé pour tenter d'expliquer cela, et la première explication qui est donnée dans bien des cultures, c'est que effectivement, c'est le fait d'avoir transgressé un tabou, ou bien le fait d'avoir attenté à Dieu, mais c'est à peu près la même chose, qui est l'explication donc de cette sorte de malédiction. Un autre point fondamental et qu'on retrouve dans notre mythe d'Adam et Ève, c'est la question de la sexualité et de l'acquisition de la sexualité. La sexualité relève du sacré, et elle relève du sacré parce qu'elle permet la procréation, évidemment, c'est un premier point. Elle relève aussi du sacré pour des raisons qui nous sont peut-être davantage obscures, parce que finalement, la sexualité ouvre à une forme d'extase, hein, et que donc l'extase, c'est le contact avec les dieux, et donc là aussi, chacun sait des liens très forts entre l'érotique et la mystique, et la sexualité a toujours été un domaine extrêmement tabou, la question de l'accès à la sexualité a toujours été une question qui a énormément tourmenté, pas simplement les petits-enfants, mais également les hommes et les femmes. Et il faut savoir aussi qu'à l'origine, si vous voulez, ça c'est une chose que nous avons perdue, Dieu seul, ou les dieux seuls, avait le pouvoir d'engendrement, et que donc le fait que les hommes acquièrent la sexualité et surtout le pouvoir d'engendrement a été considéré comme une usurpation du pouvoir des dieux. Dans le texte, dans notre bonne vieille Bible que nous connaissons bien, nous avons énormément de traces du fait que Dieu veut se confisquer pour lui seul la puissance d'engendrement, et le meilleur signe, c'est avec quelle constance il rend les femmes stériles pour qu'ensuite leur fécondité soit vraiment imputée à un miracle qui vient de lui seul. Si finalement Sarah est stérile, si Abraham est un vieillard de 99 ans, c'est bien pour montrer que l'enfant qui naîtra de leurs entrailles et de leur union n'est bien sûr pas né d'eux, mais qu'il est né de la puissance de Dieu lui-même. Donc Dieu, en fait, constamment, ou du moins dans les premiers récits bibliques, mais également tout simplement à propos de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, entend confisquer pour lui et pour lui seul la puissance de l'engendrement. Vous avez le récit du combat de Jacob avec l'ange, où il est blessé à l'emboîture de la hanche. Chacun sait que c'est un euphémisme pour désigner le sexe. Vous avez également un récit un peu comparable à propos de Moïse, où il est également blessé dans ses parties que l'on dit intimes. Et on peut tout à fait considérer que la circoncision, qui est un rite absolument extrêmement ancien, n'est qu'une manière de castrer symboliquement l'homme, afin de montrer que la puissance d'engendrement qu'il peut avoir grâce au dit instrument ne peut lui venir que de Dieu seul. C'est une des explications, et à mon avis, c'est certainement la plus probable, de la question de la circoncision. Donc, si vous voulez, la question de l'acquisition de la puissance sexuelle par Adam et Ève est une question qui turlupinait énormément les gens, à cause donc, comme je vous l'ai dit, du caractère sacré de la sexualité, de son caractère quasiment mystique, et aussi du fait que la sexualité était considérée comme l'apanage des Elohim, c'est-à-dire des dieux. Et il y a aussi un dernier point qui turlupine beaucoup les gens, c'est la question de l'apparition du sens du bien et du mal, du sens moral qui, semble-t-il, fait la différence entre l'homme et l'animal. Voilà, donc maintenant, j'en viens après ces préliminaires, j'en viens et je n'irai pas très très long parce que je pense que je vais, comme j'en ai fait un énorme bouquin, je pourrais parler jusqu'à demain matin, mais j'ai une grande compassion pour les paroissiens étant moi-même, et puis moi-même aussi j'ai aussi envie d'aller dormir. Donc finalement, rassurez-vous, je n'irai pas trop loin. Donc, je prends tel que vous le connaissez, et donc, ce qui est clair, voyez-vous, c'est de ce que je disais tout à l'heure, c'est que Adam et Ève sont dans une sorte de giron de Dieu, appelé Jardin d'Éden, qui est un lieu d'Ilysse, qui est irrigué par quatre fleuves, exactement comme de la même manière que le milieu, amniotique et aquatique dans lequel nous baignons dans le giron maternel, et ils sont là donc nourris par le cordon ombilical, qui est symbolisé par l'arbre de vie. Et ils désirent donc prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors l'expression connaissance du mal, bien et du mal est extrêmement énigmatique, mais en fait le serpent nous éclaire un petit peu sur ce que veulent faire Adam et Ève. Ils veulent devenir comme des Elohim. Voilà, vous savez que le Dieu de la Bible, un des noms de Dieu de la Bible, c'est Elohim, mais bien que ça soit un pluriel, c'est un nom masculin, singulier, je veux dire. Mais en fait, il y a toujours dans la Bible quand même des Elohim, ce qui montre bien que le monothéisme juif est directement l'héritier d'un polythéisme, puisque l'un des noms de Dieu, l'un des plus constants, est un pluriel, et que finalement le nom de Dieu, enfin l'un des noms de Dieu, devrait s'écrire D-I-E-U-X, et que à côté de la mention de Dieu, eh bien il y a toujours la mention des Elohim, et à la fin Dieu lui-même dit voici que les hommes sont devenus comme l'un d'entre nous. Donc il parle de lui au pluriel, que dans le récit de Genèse 1. Il dit créons, nous créons, je ne sais plus ce qu'il dit, mais enfin il emploie un pluriel, qui est le souvenir de son, non pas d'un nous de majesté, mais qui est le souvenir de tout simplement du polythéisme qui était à l'origine. Donc, effectivement, Adam et Ève veulent devenir comme des dieux. Et ils veulent devenir comme des dieux en s'emparant du fruit d'un arbre tabou. Ça, c'est quelque chose qui est absolument constant, si vous voulez, qui est tout simplement que le fruit de l'arbre tabou est tout simplement l'équivalent d'un champignon un champignon hallucinogène, et qu'on retrouve des mythes, en particulier chez les Aztèques, tout à fait comparables, où à la place de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a tout simplement un champignon hallucinogène, et donc ils veulent, en consommant le fruit de l'arbre hallucinogène, pourrait-on dire, avoir bénéficié d'une expérience qu'on pourrait appeler chamanique ou d'une expérience extatique, en tout cas d'une expérience qui les met en contact avec le monde des dieux et qui leur fasse franchir la barrière entre le monde des humains et le monde des dieux. Donc c'est le rêve constant, si vous voulez, des hommes de l'époque ancienne, que de pouvoir, en quelque sorte, accéder au monde des dieux pour retrouver la puissance des dieux, la puissance, la jouissance des dieux, et aussi la connaissance des dieux, puisque la champignon hallucinogène, sa caractéristique, c'est qu'il donne une connaissance particulière, une sorte de connaissance extatique, une connaissance de tout, une sorte d'illumination, et illumination donc mystique, pourrait-on dire, et omniscient, enfin, ou du moins l'impression de cette connaissance. Donc, effectivement, de cette manière s'éclaire l'un des premiers sens de l'expression connaissance du bien et du mal. En hébreu, quand on veut dire la connaissance de tout, on emploie deux mots qu'on emboîte l'un avec l'autre. Donc, la connaissance du bien et du mal, ça veut dire la connaissance de tout ce qui est bien et de tout ce qui est mal. Autrement dit, la connaissance de tout. Hein, la connaissance de tout. Vous avez d'autres expressions un peu du même genre qui sont bien connues. Quand on dit que Dieu créa le ciel et la terre, ça ne veut pas dire qu'il a créé le ciel d'un côté et la terre de l'autre, mais ça veut dire qu'il a créé le ciel et la terre. Hein, quand j'écris ceci, moi je mets des tirets. Il a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire qu'il a créé tout. Hein, la connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance de tout. Quand on dit la chair et le sang, hein, la chair et le sang dans le Nouveau Testament, eh bien la chair et le sang, c'est la totalité de la personne. C'est pour ça, je dois dire en passant, que les catholiques ont bien raison de ne pas dissocier le pain du vin, la chair du sang, mais de tremper le pain, l'hostie, dans la coupe de vin pour bien montrer qu'il y a une unité de la chair et du sang. Voilà. Donc, effectivement, si vous voulez, la chair et le sang, le bien et le mal, le ciel et la terre caractérisent donc des totalités. Et donc, Adam et Ève veulent devenir comme des dieux, ou plus exactement comme des Elohim, connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire connaissant tout. Ils veulent connaître une illumination extatique qui leur permet de retrouver une sensation d'être comme des dieux et comme des anges. Et bien sûr aussi de connaître la toute-puissance des dieux, et aussi, ce qui est au moins aussi pourtant, la toute jouissance des dieux. Autrement dit, d'une certaine manière, si on veut transposer ça dans le langage psychanalytique, ils veulent retrouver l'état de toute connaissance, de toute puissance et de toute jouissance que connaît le petit dans le sein de sa mère. Parce qu'effectivement, le petit dans le sein de sa mère, il a un sentiment de toute puissance parce que le moindre, il n'a même pas de désir. Puisqu'il est nourri par le cordon ombilical, il n'a même pas de désir, il n'a même pas faim, il est immédiatement. Donc il a eu un sentiment de toute puissance, il n'a même pas à claquer dans les doigts pour pouvoir être satisfait. Bon, il a une sensation de toute connaissance à sa manière, ce qu'on appelle la connaissance synesthésique, une connaissance, disons, sensorielle, où finalement il est en pleine communion, ses connaissances au sens de Claudel, il est en pleine communion fusionnelle avec le tout dans lequel il baigne, donc il a ce qu'on appelle la science infuse. L'expression de science infuse que vous connaissez est une expression de la théologie scolastique qui caractérise la science que Adam et Ève avaient au jardin d'Éden et également la science que le petit a avant sa naissance dans le giron de sa mère, ce qu'on appelle la science infuse. Donc il a la toute connaissance, la science infuse. Il a un sentiment de toute puissance, puisqu'il n'a pas de désir et il n'a pas de manque. Et il a aussi une sensation de toute jouissance, puisqu'il est donc bercé par le sein maternel. Il a donc un sentiment de toute jouissance. Donc, effectivement, Adam et Ève veulent connaître par eux-mêmes. Ils veulent connaître par eux-mêmes. Ils veulent s'emparer par eux-mêmes. Ils veulent conquérir par eux-mêmes. Cette toute puissance, toute connaissance et toute jouissance, et il s'empare donc du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal de cette manière. Donc c'est la première manière de lire le fruit de l'arbre. L'arbre est donc un arbre champignon hallucinogène. Deuxième manière de voir le fruit de l'arbre, eh bien, l'arbre est tout simplement une mandragore aphrodisiaque. Il est une mandragore aphrodisiaque et une mandragore aphrodisiaque qui est apte à susciter le désir sexuel et également la puissance d'engendrement. Cette lecture a été condamnée par la morale chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré que puisque le récit était à l'initiative du péché originel, il ne fallait bien sûr pas supposer, le moins du monde, que le péché originel avait quelque chose à voir avec la sexualité. On l'a dit pendant des siècles et des siècles, et maintenant c'est fini. C'est fini, vous avez bien compris. Le péché originel n'a strictement rien à voir avec la sexualité. Le péché n'a rien à voir avec la sexualité. La sexualité n'a strictement rien d'un péché. Vous l'avez compris? Eh bien, c'est faux. Eh bien, c'est faux parce qu'effectivement, on peut dire que la lecture moralisante du Moyen-Âge, du récit d'Adam et Ève, était une vraie lecture. Et était la bonne lecture. Effectivement, Adam et Ève acquièrent la sexualité. Et ils acquièrent la sexualité en transgressant un tabou par un acte de désobéissance. Bon, ce qui le montre bien, c'est que vous avez, y compris dans les Saintes Écritures, des textes où une femme donne une mandragore, ben donne une pomme ou une mandragore aphrodisiaque à son mari pour le permettre de faire son devoir. Et pour lui permettre, voilà. Donc, vous avez ce texte, vous avez ça, deux traces de ceci dans la Bible. C'est toujours les femmes, hein, qui s'y emploient, si j'ose dire. Eh bien, donc, Rachel donne à son conjoint une mandragore aphrodisiaque. Et dans le Cantique des Cantiques, eh bien, sauf si vous en faites des lectures symboliques et mystiques, eh bien, vous verrez qu'effectivement, il y a question aussi de mandragore aphrodisiaque. Bon. De plus, quand on voit quand on s'intéresse un peu à l'archéologie de cette époque-là, on constate que, bien effectivement, en Égypte en particulier, on voit également une reine qui donne une mandragore aphrodisiaque à son époux. Reine égyptienne offrant des mandragores à son époux. Et vous avez dans toutes les civilisations donc ce signe. Cette constance, et là, bien sûr, vous avez bien noté que c'est bien Ève qui donne à Adam le fruit de l'arbre. C'est Ève qui donne à Adam le fruit de l'arbre. Et puis aussi, ce récit, là je ne veux pas y insister parce que ça m'entraînerait trop loin, est tout à fait influencé par l'épopée de Enkidu, telle qu'on la trouve dans la saga de Gilgamesh. Et donc là, dans ce texte-là, qui est un texte babylonien, eh bien, effectivement, il y a un homme qui ressemble à s'y méprendre à Adam, c'est-à-dire c'est un gros plouc, un peu terrien, et puis qui vit seul en compagnie avec des animaux. Et voilà, il se trouve que finalement une déesse, pour je ne sais quelle raison obscure, mais certainement relativement malsaine, décide de dégrossir le dit Enkidu. Et lui envoie une jolie courtisane, comme on dit pudiquement dans les livres censurés par le Nil Obstacle. Et donc lui envoie une courtisane, et que cette courtisane donc initie le dit Enkidu à la sexualité, et que après qu'il ait été initié à la sexualité, et qu'il ait connu des jouissances pendant plusieurs nuits, et aussi vraisemblablement pendant plusieurs journées, elle lui dit « tu es comme un dieu ». C'est-à-dire exactement la même chose que dans le récit d'Adam et Ève, où ils sont comme des dieux. Donc effectivement, le fait même qu'avant d'avoir mangé le fruit de l'arbre, ils sont nus et n'en ont point honte, et qu'après, ils sont nus et qu'ils en ont honte, la condamnation de Dieu ensuite porte en particulier sur la question de la sexualité, puisque finalement on dit que la femme, la sexualité est de l'engendrement, puisqu'on dit que la femme engendrera dans la souffrance et que les désirs sexuels qu'elle aura vis-à-vis de son époux, de son conjoint, seront des désirs conflictuels. Il dominera sur toi, ton désir se portera vers lui, mais il dominera sur toi. Donc, tout un ensemble de choses montre bien que, en fait, donc, ici, Adam et Ève sont initiés à une première expérience sexuelle et que ceci est accompli par la consommation d'un fruit tabou et qui était réservé à Dieu. Et que Dieu n'est pas content qu'on lui ait ravi son phallus. Et la meilleure preuve de ceci, c'est que pour la naissance de Caïn et Abel, eh bien, Ève a la courtoisie de dire à Dieu, à propos de la naissance d'Adam, « Voici, j'ai acquis un homme avec l'Éternel. » Elle n'a pas acquis un homme avec Adam, mais révérence oblige, puisque Dieu n'était pas content qu'on lui ait ravi le phallus, eh bien, il fallait que Caïn naisse de par l'Éternel. Pour le malheureux Abel, eh bien, c'est Adam, semble-t-il, qui s'y est employé, et ça ne lui a pas porté chance. Et c'est là peut-être une des explications du fait que Caïn ait eu la vie dure, si j'ose dire, parce qu'il avait été acquis de par l'Éternel, alors que Abel, lui, qui n'était naissait simplement d'Adam, a eu une vie brève. Il était vertueux, mais il a eu une vie brève. Bon, voilà donc, si vous voulez, brosser si vous, donc deux lectures possibles du récit d'Adam et Ève. Une première lecture où ils veulent devenir comme des dieux grâce à un champignon hallucinogène et connaître une expérience extatique, et aussi deuxième lecture où ils acquièrent la sexualité grâce à une mandragore aphrodisiaque. Voilà. Il est très probable, parce que nous avons d'autres récits de ce genre, il est très probable que le récit d'Adam et Ève a connu des strates primitives antérieures, comme je vous l'ai dit, et que dans une première strate, eh bien, effectivement, une première strate racontait à peu près ceci. Au commencement, il y avait un homme et une femme, mais ils ne connaissaient pas la sexualité. Les dieux conservaient pour eux jalousement le pouvoir de la sexualité et de l'engendrement. Mais un dieu un peu coquin, comme par hasard un serpent, a voulu jouer un sale tour à ses congénères de dieux, et il est allé vendre la mèche, si j'ose dire, à Adam et Ève, et aux deux premiers hommes. Et donc, les deux premiers hommes ont acquis ainsi la sexualité par la trahison du dieu serpent par rapport aux autres dieux. Donc, c'est une possibilité que la toute première strate du récit d'Adam et Ève était celle-ci. Et ensuite, au fur et à mesure de l'avancée des siècles, eh bien, on a, si on peut dire, un peu spiritualisé les choses, et on a, d'une certaine manière, oblitéré l'aspect directement sexuel du mythe d'Adam et Ève pour en faire un récit un peu plus ou moins prométhéen des hommes qui veulent être comme des dieux, et qui veulent s'emparer du feu des dieux, et qui veulent s'emparer du pouvoir des dieux. Voilà. Et donc, on a mélangé les deux, mais on n'a pas donc dit directement dans notre récit que Adam et Ève avaient acquis la sexualité, bien que, à mon avis, ça crève les yeux, hein, ça crève les yeux qu'ils ont acquis la sexualité, mais donc on n'a pas dit ça directement, et on a raconté le récit comme si c'était plutôt une volonté d'Adam et Ève de s'emparer du pouvoir des dieux. J'en ai encore pour combien de temps à déblatérer?
Mais on peut s'arrêter là et passer aux questions.
Ah bon, parce que j'en
On va
ai encore beaucoup
déblatérer
d'autres.
comme ça collectivement, ça sera sympa. Non, mais c'est comme vous voulez, mais 5 ou 10 minutes, et puis sinon on passe aux questions. On se quitte généralement à 22 heures.
Ah, bien. Moi, je crains toujours les questions parce que... Alors, je vais quand même esquisser un petit peu le complexe d'Œdipe d'Adam et Ève.
Voilà.
Et pendant 5-10 minutes maximum.
D'accord.
Donc, je me suis intéressé à un mythe qu'a écrit Freud, pour expliquer l'origine du tabou, du parricide et de l'inceste. Vous savez que il y a donc deux tabous, enfin trois avec le cannibalisme, trois tabous fondamentaux, le parricide, l'inceste et, accessoirement, le cannibalisme. Et Freud a composé un mythe qui est bien connu, qu'on appelle le mythe de la horde primitive, et qui raconte ceci. À l'origine, il y avait un homme qui était le patriarche, qui était un mâle dominant, et qui se réservait pour lui seul toutes les femelles. Ça a l'air de faire sourire certains, c'est pas une charge. Et il se réservait pour lui toutes les femelles. Et les fils, frustrés, donc sans aucune forme de sexualité, ont décidé de se liguer pour tuer le père, et ils ont donc commis cette forme de parricide, pour pouvoir avoir les femmes du père, c'est-à-dire pour commettre une certaine forme d'inceste, d'une certaine manière, même si ce n'est pas d'inceste direct, puisque c'est simplement les femmes du père. Et ensuite, il semble-t-il, ils ont été pris de remords, et donc ils n'ont pas commis l'inceste. Mais ils ont institué par une sorte de remords, le tabou du parricide, puisqu'ils ont regretté d'avoir tué leur père, le tabou de l'inceste qu'il n'avait pas commis, et aussi le tabou du cannibalisme, parce qu'entre-temps, ils avaient mangé leur père pour pouvoir s'incorporer la puissance de leur père. Voilà, ça c'est le mythe de Freud. Et je me suis amusé à appliquer la grille de ce mythe que Freud a composé totalement indépendamment du mythe d'Adam et Ève, de l'appliquer au mythe d'Adam et Ève. Voilà, donc à l'origine, Adam et Ève étaient confisqués de sexualité, Dieu le Père confisquant la sexualité pour lui tout seul. Et on peut lire le récit d'Adam et Ève comme une sorte d'attentat contre le Père. L'arbre représentant, pourrait-on dire, si on peut, la puissance phallique de Dieu, en tout cas la puissance de Dieu, ne disons pas phallique, et donc il y a une sorte d'attentat contre Dieu. Ils commettent une sorte d'attentat contre Dieu, et aussi d'une certaine manière, ils commettent une forme d'inceste, puisque comme je vous l'ai dit, manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avait aussi pour objectif de rejoindre le giron du Dieu-mère, c'est-à-dire le giron du jardin d'Éden, et donc, d'une certaine manière, de commettre ce qu'on pourrait appeler une sorte de rapt incestueux, puisque si effectivement Adam et Ève cueillent le fruit de l'arbre pour pouvoir s'approprier la vie paradisiaque comme des dieux, et vivre comme des dieux dans le giron du jardin d'Éden, eh bien, on peut considérer que leur acte est une forme de rapt incestueux. On peut noter aussi en passant que la première liaison entre Adam et Ève peut être considérée également comme incestueuse, puisqu'on peut considérer qu'Adam et Ève sont frères et sœurs, ou peut-être même que Ève est la fille d'Adam, puisqu'elle est née de sa côte. Donc, vous avez dans ce récit-là, si vous voulez, à la fois un acte de parricide contre Dieu, puisque finalement, on attente à la puissance de Dieu, et également un acte éventuellement de désir d'inceste, puisque on capte ce fruit de l'arbre qui permet l'accès à la jouissance édénique de la vie in utero dans le sein de Dieu. Donc effectivement, on peut lire ça, et on peut lire donc effectivement Également, la parole de Dieu, si vous mangez du fruit de l'arbre, vous mourrez, comme une sorte d'interdit de Dieu d'accomplir cet acte de parricide et d'inceste, et le fait néanmoins que cet acte de parricide et d'inceste a néanmoins été commis. C'est l'aspect d'ailleurs le plus troublant de ce mythe, c'est qu'on commence, on inaugure l'histoire sainte par un acte de bravade à l'égard de Dieu réussi. Alors, bien sûr, je sais bien que Dieu se défend ensuite et qu'il punit Adam et Ève, mais enfin, c'est quand même assez extraordinaire qu'on commence, que le tout premier mythe raconte un acte de dépossession de Dieu et que ça figure dans les livres saints, les livres saints du judaïsme. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, et ça sera le mot de la fin, Monsieur le Président, je disais que les mythes avaient une puissance cathartique. C'est-à-dire que ça permet d'exprimer des choses inavouables, hein, des choses pas bien du tout. Donc effectivement, le mythe d'Adam et Ève qui décrit à l'évidence, même si on ne rentre pas dans la totalité de mon discours psychanalytique, le mythe d'Adam et Ève qui décrit à l'évidence un attentat à l'encontre de Dieu qui a été réussi, a une valeur cathartique parce qu'en fait il exprime ce que tout homme et toute âme normalement constituée a envie de faire, mais qu'il s'interdit de faire, à savoir braver Dieu et lui en vouloir pour ses interdits, pour la chape de plomb des tabous et des morales qu'il fait se peser sur nous. Je sais bien que 20 siècles d'éducation chrétienne nous ont appris que Dieu était bon, 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 très bon, et même super bon. Mais au fond de nous-mêmes, nous continuons, de manière archaïque, à considérer Dieu comme une puissance censurante, comme une puissance prohibitante, comme prohibitrice exactement, une puissance prohibitrice, comme une puissance instaurant des tabous, et nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Bien sûr, tous les théologiens possibles et imaginables vous diront que la foi n'a strictement rien à voir avec la morale, et certains d'entre nous même ont quelquefois l'audace de le croire, mais au fond de nous-mêmes, nous savons bien que ce n'est pas vrai, et que, en fait, Dieu est quand même la puissance première de la coercition sociale, morale et des tabous archaïques. Et donc, effectivement, c'est tout à fait intéressant que, en quelque sorte, nous nous purgions de ce désir d'attenter à Dieu et d'en vouloir à Dieu en lisant régulièrement le récit d'Adam et Ève.
Merci.
Bon, alors je vais peut-être commencer par poser la première question. Alors c'est vrai que c'est pas un sujet extrêmement facile, mais bon. Donc moi je partirai un petit peu de ce qui était plutôt la conclusion, à savoir, au fond, comment se fait-il que dans la Bible, donc on est comme gardé et consigné la mémoire d'un attentat, et d'un attentat finalement assez réussi malgré tout. Donc, ça paraît assez contradictoire finalement. Alors moi je poserai la question suivante. Je suis pas certain évidemment d'avoir des réponses toutes faites à ce genre de vaste problème. C'est-à-dire que il y a une ambiguïté quand même dans le désir d'être comme des dieux. Parce que, effectivement, quand on interprète le mythe du paradis, et puis quand on fait une analogie avec la vie fœtale, hein, c'est classique, c'est ontogénèse, phylogénèse, donc on fait une analogie entre la formation d'un individu et puis l'histoire de notre espèce. Et donc, on aurait la nostalgie des origines, la nostalgie du ventre maternel, c'est-à-dire la nostalgie d'un état dans lequel on ne connaîtrait pas de limites. Et moi, Ouais, moi, ce que je contesterais précisément, c'est que la nostalgie de cet état soit, à proprement parler, le désir de la puissance. C'est-à-dire que Freud parlant du fœtus, finalement, du sentiment océanique. C'est-à-dire que le sentiment océanique, c'est un sentiment où il n'y a pas d'absence, il n'y a pas de sentiment de limite, et donc il n'y a pas de sentiment de soi, il n'y a pas de sentiment d'exister. Pour avoir le sentiment de la toute-puissance, il faut avoir le sentiment d'exister soi-même et de reconquérir quelque chose que l'on aurait perdu. Et donc moi, à mon avis, ce désir d'être comme des dieux, qui consisterait à retrouver l'état fœtal, c'est un désir d'involution. C'est-à-dire que c'est très exactement ce que Freud appelle la pulsion de mort.
Oui.
Parce que la pulsion de mort, chez Freud, ce n'est pas l'agressivité, hein, contrairement à ce qu'on croit. La pulsion de mort, c'est le désir de retrouver un état qui est beaucoup moins fatigant que l'état dans lequel on se trouve quand on existe et qu'on est différent du monde extérieur et donc différent des autres. Et effectivement, c'est le désir de se dissoudre. Et donc, le désir de revenir à l'état fœtal, c'est le désir de mourir. Et donc, ça existe en nous. C'est une réalité. Mais ce que dit la Bible, c'est autre chose. C'est que finalement, ce que dit la Bible, c'est qu'il y a une sortie, effectivement, dans l'existence et par l'existence. Il y a une découverte de la sexualité, mais qui n'est pas du tout la toute-puissance. Quiconque a un début de commencement d'expérience de la sexualité sait bien que ce n'est pas l'expérience de la toute-puissance. C'est exactement le contraire. Le propre d'avoir un sexe, c'est d'être séparé, c'est de ne pas être complet, et donc d'avoir le désir de l'autre. Donc moi, il me semble au contraire que si le mythe d'Adam et Ève est en bonne place, et si nous n'avons pas honte, si j'ose dire, de parler d'un attentat réussi, c'est que c'était effectivement un attentat contre, à mon avis, un désir de divinité archaïque qui est une pulsion de mort, alors que ce qu'il s'agit de découvrir, c'est la pulsion de vie, c'est-à-dire l'entrée dans l'existence, l'entrée dans la sexualité, c'est-à-dire dans la limite, et pas du tout dans la toute-puissance. Donc moi, j'aurais tendance à lire le mythe de la Genèse, alors là, peut-être contre alors, l'interprétation culpabilisante, comme effectivement le fait que, bah, ma foi, l'homme a été capable de ne pas être bêtement obéissant et que c'était la seule façon finalement d'accomplir quelque part le dessein de Dieu, après tout, pourquoi pas. Si tant est que Dieu ait créé la création pour qu'il ait un jour un vis-à-vis, car il devait s'ennuyer à mourir tout seul. Voilà ce que j'aurais tendance à dire.
Alors, bon, première chose, effectivement, même si j'ai prononcé toute puissance, ce n'est pas le point fondamental. C'est effectivement toute jouissance, le désir de réintégrer le sein maternel est un désir de toute jouissance. Bon, et ce n'est que de manière annexe.
C'est un désir de mourir.
Alors, j'en viens. Donc, effectivement, le désir de jouissance est... pas du tout un hasard qu'il soit associé à ce qu'on appelle la petite mort. Voilà. Le désir de jouissance, qui est d'ailleurs une expression un petit peu contradictoire dans les termes, parce que finalement, quand on a la jouissance, on n'a plus le désir, et quand on a le désir, on n'a pas encore la jouissance. Donc effectivement, l'expression désir de jouissance est une sorte d'oxymore. Bon, mais la jouissance, effectivement, a été considérée comme ce qu'on appelle la pulsion de nirvana, qui est effectivement, chez Freud, une pulsion qui relève de la pulsion de mort. Et effectivement, le désir de retrouver la jouissance de la vie in utero ou de la vie paradisiaque est le désir de retrouver une vie létale, une vie inorganisée, une vie sans désir. Et donc, pour ce point, nous sommes tout à fait d'accord. Donc, effectivement, je pense que la raison pour laquelle Dieu dit « Si vous mangez le fruit de l'arbre, vous mourrez », peut être lue de deux manières. La première manière, c'est qu'effectivement...
Vous mourrez à votre état létal.
La première manière, c'est qu'effectivement, c'est un tabou, et que toute transgression d'un tabou enterre la mort. Toute transgression d'un tabou entraîne la mort. Mais la deuxième, et c'est effectivement, si vous mangez le fruit de la jouissance, Vous irez vers la mort. Vous irez vers la mort. Bon, vous irez vers la mort, vous mourrez. C'est un avertissement du Dieu de vie qui dit, si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire de la jouissance, vous irez dans le sens de la pulsion de mort. C'est une manière de donner quand même un petit peu un rôle gentil à Dieu qui prévient qu'effectivement il y a une différence fondamentale entre la pulsion de vie et la jouissance. La pulsion de vie, c'est une chose, et la jouissance est effectivement quelque chose qui, comme tu le dis fort justement, a, du moins dans l'optique de Freud, quelque chose à voir avec la pulsion de mort.
Voilà, mais vous avez Étienne.
L'animalité à l'humanité. Et si je peux dire, de Lacan sur le par-l'être, l'homme qui accède à l'humanité en accédant au langage. Et il me semble effectivement que c'est une autre approche que celle que vous décrivez, et dans laquelle, par exemple, mourir, n'est-ce pas tout le monde meurt, tout le monde meurt, mais il n'y a que l'être parlant qui puisse formaliser le fait qu'il a vocation à mourir. Et j'avais trouvé cette approche intéressante, parce qu'au fond, les trois termes simples, à ce moment-là, quand on mange, on est nourri par l'arbre de vie, donc tout va bien, tout est extraordinairement simple, simplement, on est nourri, on vit. Et quand on mange de l'arbre du bien et du mal, on accède à un autre niveau et on commence à
parler.
On commence à parler, on commence à savoir ce qu'on est, on commence à savoir qu'on va mourir. Et moi, je ne suis pas assez pour décrire ce problème, mais je trouve ça extrêmement intéressant. Je ne sais pas quelle réaction par rapport à cette approche-là.
Bon, moi, je ne connais pas beaucoup Lacan, si ce n'est que le concept de jouissance est un concept typiquement latinien. Enfin, il existe chez Freud aussi, mais enfin, il a été surtout repris par Lacan. Mais en fait, ceci dit, sur le fond des choses, je crois qu'effectivement, le récit d'Adam et Ève décrit le passage de l'état animal à l'état d'homme et par l'acquisition de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, cette fois-ci au sens moral. Donc, voyez-vous, il y a en fait trois sens à l'expression connaissance du bien et du mal. Le premier sens, connaissance du mal, ça veut dire la connaissance de tout. La connaissance de tout. Le bien et le mal, ça veut dire tout. Deuxième sens qu'on trouve deux fois dans la Bible, la connaissance du bien et du mal et la connaissance sexuelle. Quand on dit qu'un vieillard est sans connaissance du bien et du mal, ça veut dire qu'il n'a plus d'activité sexuelle. On le dit aussi des enfants qui sont sans connaissance du bien et du mal. Donc, effectivement, la connaissance du bien et du mal est une expression pour qualifier la sexualité. Et c'est bien évident, parce que connaître, tout le monde sait que connaître dans la Bible, c'est faire l'amour, enfin, c'est copuler, et tout le monde sait que cet acte de la copulation est considéré comme relevant du bien, puisque ça permet l'engendrement, et aussi du mal, parce que c'était considéré comme une forme de souillure. Donc effectivement, ça n'a rien d'étonnant que l'expression connaissance du bien et du mal caractérise la sexualité. Mais il est aussi très probable que l'expression connaissance du bien et du mal caractérise le sens moral, l'acquisition du sens moral, et que donc à la fin du récit, eh bien, Adam et Ève ont la connaissance du bien et du mal au sens moral. Alors, et ils ont la connaissance du bien et du mal au sens moral, et comment ils se manifeste le fait qu'ils ont acquis la connaissance du bien et du mal au sens moral, eh bien, c'est par le fait qu'ils ont eu honte. Hein, la honte, ils n'ont pas acquis la connaissance du bien et du mal en mangeant le fruit de l'arbre. Ils n'ont pas non plus acquis la connaissance du bien et du mal en écoutant ce que Dieu leur disait. Ils ont acquis la connaissance du bien et du mal. C'est l'expérience de la honte qui leur a fait découvrir qui leur a fait découvrir la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il y a eu une expérience, ils ont eu une expérience. Je m'éloigne un peu de Lacan, mais enfin j'embraye sur le thème du passage de l'humanité à l'homme. Ils ont eu une expérience qu'ils ont ressentie comme une expérience de souillure, et la souillure étant dans le fait de transgresser un tabou, la souillure est dans le fait de transgresser un tabou, mais la souillure, ce n'est pas de l'ordre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, ils ont eu honte, ils se sont cachés parce qu'ils se sont sentis souillés, et c'est la honte qui les a initiés à la différence entre le bien et le mal. C'est par ce sentiment physiologique et quasiment, je ne sais pas si on peut dire animal, parce que je ne sais pas si les animaux ont honte, enfin, les chiens, quelquefois, ont l'air d'avoir honte. Enfin, c'est en tout cas par un sentiment physiologique de honte, la honte fait rougir, qu'ils ont découvert que c'est la honte qui leur a fait découvrir ce que c'est que le bien et le mal. Ils ont découvert ensuite le bien et le mal par l'intermédiaire de la honte, qui est une forme d'angoisse. Et alors, c'est tout à fait la même chose, je le dis en passant, chez les enfants au début naissent sans connaissance du bien et du mal, tout petits, et en fait, ils découvrent ensuite, enfin, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que ça sera un peu long, mais ils découvrent également le bien et le mal relativement un peu sur le tas, et ils découvrent le bien et le mal par l'intermédiaire de la honte. La honte étant d'avoir fait quelque chose qui déplaît à leur père ou à leur mère.
Oui. Oui, vous prenez cette question, vous parlez de la sexualité, mais à travers tous les siècles que ça monte, on a quand même toujours mis une peur sur la sexualité, même homosexuel, ça veut dire si en grec on aime quelqu'un du même sexe. Et alors, il y avait des choses terrifiantes, c'était la mort. Regardez ce qui se passe dans certains pays avec la lumière, même quand on met l'évangile, et on n'a jamais se dépouillé de ce système. Et il y avait un journaliste du Monde, je crois, de la rue des Deux Mondes, qui disait que récemment, c'est pas l'acte qui fait peur, mais c'est le poids des mots.
Je n'ai pas grand-chose à me dire là-dessus, si ce n'est qu'effectivement la sexualité, ça apparaît très clairement. La sexualité est dans ce mythe, elle est ultra présente, et donc elle est considérée comme un tabou. Il y a des tabous sur la sexualité, c'est incontestablement. Il y a des tabous sur la jouissance aussi, mais il y a des tabous sur la sexualité. Bon, je pense qu'on ne peut pas le nier. Il y a donc dans ce mythe-là un tabou qui est posé sur la sexualité. Donc je vous ai dit pourquoi. C'est parce que la sexualité est considérée comme un accès au sacré, parce qu'elle était considérée comme l'apanage et le privilège des dieux. Enfin, pour trouver des différentes raisons. Et il y a incontestablement un tabou sur la sexualité. Et bon, l'acte d'Adam et Ève est donc un acte de transgression d'un tabou en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui donc, comme je l'ai dit, un fruit qui a initié à la sexualité.
Mais pour reprendre un peu par rapport à la question de la transgression et à la question de la honte, moi, c'est vrai que si on dit effectivement qu'entre l'animal et l'homme, alors Sans convoquer des grandes idées métaphysiques sur la question de savoir qu'est-ce que c'est que la liberté, on peut dire comme Rousseau, la liberté c'est simplement la capacité de résister ou de concourir à ses actions. C'est vraiment une définition minimale de la liberté, mais qui suppose qu'il y a une couche de conscience de notre vie et de nos actes qui fait que l'on peut effectivement concourir ou résister à ses actions. Et donc l'expérience montre, comme dirait Kant, ça n'est pas dans le concept de l'homme, mais c'est ce que l'expérience montre. L'homme ne peut pas ne pas faire un mauvais usage de sa liberté. Et moi j'aurais tendance à penser qu'effectivement, si l'homme ne peut pas ne pas faire un mauvais usage de sa liberté, c'est que le seul moyen concret d'éprouver sa liberté, c'est de désobéir ou de transgresser. Et tous les enfants ont évidemment désobéi ou transgressé par rapport à ce que leurs parents leur expliquaient. Et donc, l'expérience de l'humanité comme expérience de la liberté, c'est toujours nécessairement l'expérience de la transgression. Et de ce point de vue-là, il s'agit de quelque chose qui est structurel à la conscience d'être. Et à ce moment-là, la honte, contrairement à ce qu'on dit, la honte, c'est pas tellement quelque chose d'appris, etc., etc. Comme dirait Sartre, être, c'est avoir honte d'être, c'est se sentir de trop ou par-dessus le marché. C'est-à-dire, l'homme, c'est l'animal qui sent qu'il, par son action, même dans le temps court de sa vie, il peut faire quand même suffisamment de conneries pour bouleverser l'ordre des choses. Ce qui est d'ailleurs la honte ou la culpabilité de notre espèce à notre époque sur le plan écologique. Quelle que soit notre faiblesse, nous avons suffisamment de force et d'intelligence pour bouleverser ce que nous avons reçu, ce qui est parfois un petit peu inquiétant. Tout ça pour dire quoi ? C'est que moi, je ne crois pas tellement à cette idée que les religions nous auraient collé dans la tête un sentiment de culpabilité dont il faudrait se débarrasser. Je pense au contraire que la culpabilité est un phénomène de structure de la conscience et que les religions animent et occupent ce phénomène. Et je trouve que la doctrine du péché originel est finalement formidablement libératrice, à condition de ne pas en faire un traitement psychiatrique par rapport à la sexualité, si j'ose dire. Mais cette idée qu'on ne peut pas ne pas transgresser, qu'on ne peut pas ne pas se détourner, on ne peut pas ne pas faillir, c'est extraordinairement libérateur. Et tous les gens qui prétendent nous libérer de la culpabilité sont, par contre, alors extrêmement lourds, parce qu'on se sent coupable au carré, parce qu'on n'a pas le droit de se sentir coupable. C'est une prison insupportable. Donc moi, j'aurais tendance à dire que les enseignements religieux, l'enseignement de la Genèse, rend compte de notre nature et nous libère un peu, plutôt que ce qu'on dit habituellement, c'est-à-dire ça nous charge.
Alors, par rapport à ce que tu dis, là, j'ai d'abord une première remarque. Une de mes grandes interrogations a été, à propos de mon étude de Nubie, de savoir à quel moment apparaissait la conscience du bien et du mal, et c'est le même problème que la liberté. C'est-à-dire que la liberté, c'est la liberté de faire quelque chose qui est mal, on peut dire. Ah oui. C'est la liberté de désobéir. Donc, dans la mesure où je place l'apparition du bien et du mal après l'apparition de la honte, je considère que l'acte d'Adam et Ève n'est pas un acte de transgression consciente. Ce n'est pas un acte de transgression conscient. Ils ont été séduits par le serpent, et le serpent, en les séduisant, leur a fait croire que c'était pas mal. Donc ils n'ont pas transgressé l'acte de manière consciente, donc de manière libre. Néanmoins, ils ont de fait transgressé un tabou, et de la même manière que mon gendre, qui, sans avoir mangé volontairement du porc, donc pas de question de liberté, en ayant simplement transgressé un tabou qu'il l'ait fait en pas une transgression libre ou pas, il a été malade comme un chien, et bien de la même manière, Adam et Ève, en ayant mangé le fruit de l'arbre tabou, ont été pris de honte. Et donc, ils ont transgressé de fait un tabou. Ils ne l'ont pas fait par un acte de désobéissance. Ils ne l'ont pas fait par un acte de liberté. Et donc, effectivement, là où je crois que je te rejoindrai, parce que même si je ne suis pas d'accord avec les prémices, je suis d'accord avec le terme, la liberté, donc, apparaît après. La liberté apparaît après, elle est une conséquence de la chute. On dit tout le temps que c'est parce que Adam et Ève ont librement transgressé un interdit de Dieu, ils ont fait quelque chose de mal, qu'ils ont été punis. Moi, je dis non. La liberté apparaît après. Alors, ça, c'est pour eux. Deux, parce que la liberté, ensuite, ils ont la liberté, effectivement, de faire ce qui est bien ou ce qui est mal. Bon, et alors, sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec toi, cette histoire sur la culpabilité, d'ailleurs Freud lui-même n'a jamais dit que la religion avait engendré la culpabilité, il dit que la religion a fait de la culpabilité son fonds de commerce, c'est pas la même chose, mais d'une certaine manière qu'il la régule, et quand, d'une certaine manière, la religion est une névrose collective qui empêche les névroses individuelles, ce qui n'est pas si mal que ça. Donc, c'est pas si mal que ça. Donc, effectivement, je crois que cette question de la culpabilité, on en a fait tout un plat pendant un certain temps pour dire qu'on était tous coupables. On en a fait tout un plat ensuite pour dire qu'on n'était pas du tout coupables. Je crois que, effectivement, la manière dont tu présentes le péché originel est exactement la mienne. C'est-à-dire que nous sommes, de toute manière, je dirais, inaptes au bien, mais un peu de la même manière que nous sommes inaptes à sauter à plus de 2,20 m de hauteur. Hein, c'est une inaptitude constitutive. Nous sommes incapables de faire le bien. Bon, c'est une donnée inhérente à nous-mêmes. C'est un état de fait, hein, de la même manière que nous avons deux mains, et voilà. Nous sommes inaptes au bien, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Bon, c'est une donnée, voilà, et bon, c'est comme ça, quoi.
Alors, juste un mot, mais après, on redonne la parole. Moi, je crois sur cette histoire, est-ce que la liberté est une conséquence ou est-ce qu'elle est au départ une transgression consciente, etc. Moi, j'aurais une théorie des commencements infinitésimaux, c'est-à-dire des petits glissements insensibles. Hein, donc on imagine la scène, donc Ève évidemment est devant Adam qui est évidemment un peu un gros balourd et elle lui dit bon alors on pourrait la manger, t'es pas cap, voilà. Il dit pourquoi pas, c'est des tout petits glissements. Autrement dit, le péché ce n'est jamais le désir du meurtre, je ne sais trop quoi, comme disait Maurice Lavelle, le péché c'est je suis à la messe mais ce qui me passionne c'est le chapeau de ma voisine. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on est toujours hors de soi. On n'est jamais capable d'être attentif. Et autrement dit, les plus grandes misères commencent d'une manière infinitésimale. Et effectivement, il n'y a pas une espèce de liberté consciente, de transgression au départ, mais il y a une montée vers la liberté, parce qu'il y a eu sortie du paradis. Mais peut-être qu'il faudrait donner la parole aussi bien à Marc qu'à James. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à un passage biblique, comment vous l'entendez-vous? Comment
on donne la parole au clair.
Au clair, mais... Non, je précise qu'ils sont au contraire d'une discrétion exemplaire la plupart du temps et qu'ils ne monopolisent pas du tout la parole lors des conférences. Alors là, pas du tout. Au contraire, c'est la raison pour laquelle, d'une manière autoritaire et désagréable, je leur demande de prendre la parole, ce qui est très différent. Non, mais s'ils le veulent bien, s'ils le veulent bien.
J'attendais effectivement, avec l'intitulé de la conférence, à forcément voir arriver du sexe, des seins et des utérus, parce que de toute façon, c'est peut-être la névrose particulière de Freud, mais de toute façon, quand ça arrive, et ça semble être, j'allais dire sans jeu de mots, par bleu, le nœud du problème. Alors, cela dit, en fait, il m'a assez convaincu que c'était réellement à l'origine de ce mythe. Cela dit, je trouve personnellement très bien joué que ça a été enlevé, parce que du coup, justement, contrairement à la psychanalyse qui m'énerve pour ça, avec toujours ces histoires de bites et de fesses, là on tombe dans un récit qui fait beaucoup plus d'usage dans la vie courante. Je me retrouve bien avec ce que dit Philippe, c'est-à-dire que ce péché d'Adam et Ève, ça ne se cantonne pas simplement à chercher des mandragores, ça peut être. Il est applicable aussi pour aller faire le chapeau de la voisine. Et donc c'est vrai que c'est bien joué d'avoir universalisé finalement par rapport à ce que tu dis.
Le chapeau de la voisine, c'est la cerise sur le chapeau. Oui, enfin, moi, je réagis ce que tu dis là. Bon, c'est vrai que moi-même, je suis, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse là-dedans, mais je suis un petit peu aussi désarçonné par les mythes de la psychanalyse. En particulier, je ne cache pas que cette histoire d'un désir forcené que nous aurions de réintégrer le giron de notre mère me paraît un peu d'ordre mythique. C'est-à-dire, mais il faut le comprendre comme une expression mythique. comme une expression mythique d'un désir de jouissance et non pas de puissance, d'un désir de jouissance que nous poursuivons comme nous pouvons dans la vie et qui serait le désir effectivement de connaître une vie un peu béate. Bon, alors on exprime ça. Ce qui est intéressant, c'est quand même, moi finalement, les premières fois où j'ai découvert cette histoire de réintégrer le giron de sa mère, c'est vrai que, bon, c'est pousser un peu loin le bouchon. Mais c'est quand même assez extraordinaire que les mythes, le mythe d'Adam et Ève, est incontestablement le mythe du paradis perdu. C'est quelque chose qui existe pas simplement dans la Bible, mais c'est un mythe constant. Tout le monde connaît les mythes du paradis perdu qui existent dans toutes les civilisations et de l'âge d'or, et que c'est vrai que finalement l'expulsion du paradis perdu ressemble à s'y méprendre à une expulsion hors du giron maternel. Il y a quand même des analogies qui sont assez surprenantes. Et dans les grandes traditions, vous savez que dans la tradition juive, la commissure des lèvres, la commissure de là, voilà, est considérée comme un coup de bâton que nous recevons à notre naissance. À notre naissance, nous recevons un coup de bâton qui nous fait perdre la science infuse que nous avions avant. Donc finalement, il y a quand même, d'une certaine manière, dans l'imaginaire des gens, l'idée que la naissance est quand même un jour de deuil, que nous sommes jetés hors du giron de notre mère. Dans la tradition juive, bien avant que les histoires de réintégrer le giron maternel, dans la tradition juive, en Europe centrale, le jour de la naissance d'un enfant, on célébrait un léger repas de deuil à base de pois chiches. Parce que effectivement, on perdait la connaissance infuse.
Non, mais ça, tu m'as convaincu là-dessus, mais justement, je trouve que c'est bien que la Genèse ait évacué ça, et peut-être que la psychanalyse y gagnerait aussi, d'évacuer cette dimension du mythe pour le généraliser, et ça le rend beaucoup plus utilisable, je crois, dans la vie quotidienne. Pour voir comment nous fonctionnons, nous ne fonctionnons pas toujours à vouloir violer notre mère et tuer notre père, c'est un peu plus compliqué que ça, donc je trouve que ça fait plus sage.
Oui, je suis d'accord.
James, si vous dire. Non ?
Ah. Globalement, je suis un peu en désaccord avec tout le monde et je suis un peu d'accord avec tout le monde.
Bon.
C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, c'est que globalement, on se retrouve sur la finalité, l'expérience de la liberté, et tous les prémices, je pense qu'on est tous en désaccord les uns avec les autres, parce que chacun projette sa lecture. Et globalement, je serais tenté de prendre le contre-pied de ce que tu as dit, en disant, ce récit de la Genèse, c'est ce qui permet en fait de neutraliser les mythes. De même que Genèse 1 neutralise l'idée selon laquelle les astres seraient divins, ceci serait divin, les éléments seraient divins, j'ai l'impression que ce récit de la Genèse, le petit repas dans le jardin, ça neutralise tous les mythes que tu as convoqués. En disant, ce repas qui pourrait nous donner une connaissance particulière, une fois qu'il est fait, on se rend compte que, en fait, on ne sait rien. C'est-à-dire que le roi est nu. Ce qu'il sait, c'est qu'il est nu. Je veux dire, en termes de connaissance, ce n'est pas le mot. Et donc, j'ai l'impression que on a un récit qui neutralise tous les mythes qui sont à sa disposition pour dire qu'effectivement, on est dans un registre d'une complexité haute, en fait.
Bah, je suis désolé, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. D'abord parce que si tu veux, le mythe d'Adam et Ève est, comme tu le sais fort bien, l'héritier direct d'autres mythes qui disent plus ou moins la même chose, d'Enkidu, de Nulalish, enfin bon, il y a différentes, donc il y a quand même une constance, c'est-à-dire que tu peux pas...
Ah oui, il y a votre travail, c'est-à-dire que c'est comme pour le déluge, il prend des éléments et on ne prend pas pour neutraliser la mythologie babylonienne qu'il utilise.
Bah écoute, je ne sais pas, bien sûr, il les retravaille, mais c'est certainement pas pour neutraliser, ce sont des mythes comme les autres. Je ne vois pas pourquoi on ferait une place à part aux mythes bibliques. Enfin, ce sont des mythes comme les autres. Ils existaient avant la Bible. Ils ont eu une évolution. Ils ont évolué au cours des siècles. Ils se sont transformés. Bon, ils ont été réintégré dans le cadre du monothéisme juif, c'est incontestable. Je pense qu'effectivement, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais disons qu'on peut faire une lecture théologique juive de certains éléments du mythe d'Adam et Ève. Par exemple, effectivement, l'interdiction du commerce avec Dieu, qu'il soit père ou mère, est quelque chose de fondamental dans le judaïsme. Dieu doit rester au ciel et l'homme doit rester à terre. Et il y a effectivement une lecture, pourrait-on dire, dans le cadre du judaïsme, du monothéisme juif, de ce mythe-là. Mais, en fait, si tu veux, c'est une récupération relativement tardive, mais d'un mythe qui a une existence pré-juive et qui a quand même une signification comme tous les mythes. Mais alors, ce n'est pas la peine d'essayer d'étudier les mythes. Si tu veux en faire simplement une petite dinette dans un jardin, non.
Il a été écrit au VIe siècle, disiez-vous. Donc est-ce qu'il n'y a pas des traces du fait que ça a été écrit au VIe siècle et que du coup, ça pourrait être porteur d'autres pensées que seulement les mythes originels, quoi, hein, voilà. Notamment tout ce qui est de l'ordre possible de la parole, du fait que la connaissance ne se mange pas, mais se parle, etc. Mais bon, il a été écrit au VIe siècle, c'est quand même...
Il a été rédigé. Oui. Bon, mais il a été composé, on ne sait pas trop quand. On ne sait pas trop quand, mais il a été composé certainement. Le mythe qui en est son origine directe, à savoir le mythe d'Enkidu, date du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Bon, alors entre le deuxième, il est du début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Alors entre le deuxième millénaire, début du deuxième millénaire avant Jésus-Christ et le sixième siècle, 1400 ans. Bon, donc je ne sais pas à quel moment est apparu. Bon, il y a certainement eu plusieurs sources. Enfin, il y a eu certainement une genèse de ce mythe, d'autant plus qu'on trouve encore une fois des histoires du couple originel. C'est quelque chose qu'on trouve partout. Le couple originel qui bouffe quelque chose qui a été interdit par Dieu, c'est constant. Ça.
Une dernière question avant de se séparer, ou vous pourrez la poser à Alain Dio en privé, si j'ose dire.
J'ai l'impression que la notion de culpabilité, c'est une notion qui est totalement, qui distingue l'animal de l'homme, c'est-à-dire l'être parlant de l'être non parlant, parce qu'il n'y a de culpabilité que s'il y a une capacité de représentation, c'est-à-dire de construction à partir du langage. Ça me semble quand même que la culpabilité, on retrouve ce fait de passer, on ne peut être coupable que parce qu'on parle et parce qu'on est passé de l'animalité à l'humanité.
Alors, je vais dire un petit quelque chose qui a un lien avec ce que vous dites, mais pas tout à fait. Donc, dans le récit biblique, il y a donc la honte qui se fait sans parole. Il se cache en se mettant des caches-sexes. Bon, bien. La honte se fait sans parole. Ensuite, Dieu intervient et il pose la question, où es-tu? As-tu mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et là, effectivement, Adam et Ève se mettent à parler. Et ils se mettent à parler en faisant une lecture de ce qui s'est passé. C'est donc tout à fait psychanalytique. Ils disent, ils racontent, le serpent ceci a fait ceci, la femme a fait cela, et du coup, ils cessent d'avoir honte. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une cure psychanalytique réussie, c'est-à-dire qu'ils racontent ce qui s'est passé à leur manière, hein, et comment ça s'est passé, de leur manière, et donc effectivement, je dis, ils n'enlèvent pas leur slip après, mais en fait, rien ne dit qu'ils ont honte, puisque finalement ils reportent la faute l'un sur l'autre.
Bon, écoutez, Dieu est le plus grand des psychanalystes. Merci infiniment. Et n'oubliez pas de donner une contribution si vous êtes restauré. Merci. Et il y a des livres d'Alain.